Professeur Bragg, est-ce que je peux vous demander comment vous définiriez la laïcité? Quelle serait la définition que vous en donneriez?
J'essaierai de n'en donner surtout pas une définition trop raide. La laïcité est un terme qui ne se laisse pas traduire en aucune autre langue que le français. Si la notion de laïcité a un sens, c'est le résultat d'un compromis atteint de haute lutte et au bout de plusieurs années entre l'Église et l'État dans la France de la fin du XIXe siècle. Tout le reste est idéologique.
Est-ce que la laïcité, qui à l'origine était peut-être un combat contre l'Église ou une opposition à l'Église, ne devient pas aujourd'hui je dirais, une entité en soi qui devient aussi une idéologie?
Tout à fait, il s'agissait de régler des problèmes tout à fait concrets entre la Troisième République qui venait de se dégager péniblement du Second Empire et de la tentative de restauration monarchique qui l'a suivie avec MacMahon et la suite, d'une part, et l'Église qui avait été exclue de la vie publique avec la Révolution française, laquelle voulait, dans ses tendances les plus extrêmes, en finir avec elle. Donc un compromis entre deux adversaires qui ont trouvé finalement un moyen de se tolérer l'un l'autre.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que dans la laïcité, on trouve parfois une tentation de subjectiviser totalement une relation personnelle à Dieu?
Que la relation à Dieu soit subjective, qu'elle implique le sujet dans ce qu'il a de plus profond, c'est quelque chose de très positif. Ce que l'on entend alors par ce risque de subjectivisme, qui est autre chose que l'implication du sujet dans la foi, et qui en est presque le contraire, puisqu'il s'agit de rendre l'objet de la foi un objet du choix du sujet, en fait, ce qui est dangereux dans cette attitude, c'est qu'on risque par là d'abandonner tout ce que la religion peut proposer, je dis bien proposer et pas imposer, d'utile, de positif, de constructif. On veut chasser tout cela du domaine public. En d'autres termes, on veut empêcher le christianisme, puisqu'il s'agit de lui en France, de proposer ce qu'il a à dire sur les problèmes qui s'adressent de nos jours à tout homme, et qui se sont d'ailleurs sans doute de tout temps adressés à tout homme. Donc c'est plutôt une tentative de réduire au silence que d'insister sur le côté subjectif de la foi. Il s'agit d'une tentative pour privatiser, disons, entièrement le religieux.
Alors, dans une société sécularisée qui est peut-être encore en voie de sécularisation, qui a perdu ses repères, comment est-ce qu'on peut conjuguer des valeurs comme l'altérité, la multiculturalité qui sont présentes avec la question de l'identité personnelle?
Écoutez, pour répondre à cette question, il faudrait analyser et, pour être franc, détruire un tel nombre de concepts, à commencer par celui de valeur, que j'aime mieux l'apprendre par un autre angle. Je dirais, c'est très joli de parler de sécularisation, mais le siècle auquel on voudrait réduire les choses en a-t-il pour très longtemps? Je trouve que c'est une ironie de l'étymologie d'avoir fait que le terme de sécularisme, là je ne parle pas du mouvement de sécularisation qui est une catégorie historique qui désigne ce qui s'est passé après la Révolution française ou avant dans l'Angleterre d'Henri VIII, la catégorie de sécularisme, curieusement, contient en elle-même sa propre condamnation. En ce sens que le sécularisme est cette attitude d'esprit qui consiste à faire comme si la destinée de l'homme devait durer un siècle, point à la ligne. L'ennui est que, à long terme, le sécularisme a tendance à faire de cette prophétie ce que les Anglais appellent, je vous épargnerai le Maurice Chevalier, une prophétie qui se réalise elle-même. En d'autres termes, une attitude, une façon de voir, une vision de monde, du monde, comme on voudra dire, entièrement séculière, peut-elle garantir que l'humanité aurait envie de vivre plus qu'un siècle? Je crois que c'est le défi fondamental de notre époque. Nous n'avons pas de raison de vivre. Lorsque nous sommes déjà en vie, bien entendu, le problème ne se pose plus, nous sommes embarqués, comme disait Pascal. Mais la question de savoir si la vie humaine doit être poursuivie, si l'aventure humaine doit continuer sur cette terre à travers nos descendants, est une question qui se pose de la façon la plus brûlante et la plus cruciale maintenant. Je me demande si le sécularisme a une réponse à donner à cette question, s'il en a une, qu'il la donne.
Dans ces sociétés, alors je vais éviter le terme sécularisé, dans notre société actuelle, l'homme n'est-il pas tenté de faire à certains moments du syncrétisme en construisant sa propre religion à partir de différents éléments qu'il irait piocher dans diverses religions ou même dans une religion particulière ?
C'est le phénomène du marché appliqué au phénomène religieux. À savoir, eh bien, le fait tout simplement de partir avec son panier et d'y mettre, ou avec son caddie, et d'y mettre ce dont on a besoin. Alors, appliquer cela à la religion, pourquoi pas ? Le problème, c'est que on prive par là la religion de ce qu'elle a d'intéressant. Et on se contente alors de grandes marques dégriffées, si je puis dire, enfin de produits que l'on obtient au rabais, et qui sont de moindre valeur, tout simplement parce qu'une religion qui mérite un petit peu ce nom est plutôt quelque chose qui vous appelle, vous, plutôt que quelque chose que l'on va choisir. L'expérience de base de la religion, c'est l'appel. Dieu qui dit à Moïse, viens, enlève tes sandales, et puis tu vas voir ce que tu vas voir. Ou plutôt, tu ne vas rien voir, mais tu vas entendre ce que tu vas entendre. Si l'on prive la religion de cela, on obtiendra quelque chose de tout à fait dépourvu d'intérêt. Enfin, en ce qui me concerne, et pour parler comme diraient les Américains, j'achèterai pas ça. Tout simplement parce que c'est pas intéressant, c'est un produit frelaté.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans la laïcité telle qu'elle est structurée dans les pays de tradition chrétienne, cette laïcité est-elle compréhensible par d'autres traditions religieuses ou par les autres grandes religions monothéistes ?
En fait, vous parlez de l'islam, il faut appeler un chat un chat.
Et du judaïsme.
Le judaïsme a très bien compris ce que c'était que la séparation du politique et du religieux. Il a compris ça, un petit peu obligé par sa propre histoire, en gros à partir de la destruction du temple. Donc l'histoire, l'aventure est assez ancienne pour lui. L'islam, en revanche, s'est conçu dès le départ comme une entreprise destinée à donner à la religion pure, à la religion vraie qu'il prétend être, toute latitude pour s'exprimer publiquement. Ce qui veut dire que la conquête arabe au 7e siècle, la conquête du sud de la Méditerranée et d'une bonne partie du Moyen-Orient et de l'Asie centrale a été justifiée comme permettant le libre exercice du monothéisme sous sa forme la plus pure, sous sa forme la non-adultérée, puisque pour l'islam, aussi bien le judaïsme que le christianisme, tels qu'ils existent à présent, sont des formes trafiquées, adultérées, abâtardies du monothéisme primitif. Ce qui veut dire que l'islam a beaucoup de mal à se concevoir en dehors du contexte global d'une civilisation dont il serait le centre. Le problème, vous avez parlé des religions monothéistes, le problème c'est que l'islam ne se comprend pas avant tout comme une religion, mais avant tout comme une civilisation avec tout ce qu'il faut, si je puis dire, une civilisation de plein droit, une civilisation complète, qui a en particulier son propre système de droit, qui a son propre système de législation à l'intérieur duquel le seul législateur légitime, c'est Dieu, et ça ne peut être aucune instance humaine. Et le problème de faire coexister quelque chose de ce genre, j'évite de parler justement de religion, parce que ça serait réduire l'islam à une dimension peut-être secondaire, en tout cas qui n'est pas unique. L'islam aura plus de difficultés à accepter, si je puis dire, la règle du jeu, que le christianisme, tout simplement, pas parce que le christianisme ait des vertus particulières, mais tout simplement parce que la laïcité a été faite pour lui. La laïcité, c'est le christianisme en creux. Ça n'est pas l'islam en creux. Donc, c'est presque un problème de logique, si vous voulez. Enfin, comment l'islam se comprend-il lui-même et comment faudra-t-il qu'il apprenne à se recomprendre lui-même s'il veut pouvoir accepter les règles du jeu laïque ?
Justement, la laïcité, vous venez de le dire, a été construite un petit peu en opposition à l'Église. Aujourd'hui, est-ce que cette laïcité ne devient pas, pour les tenants de la laïcité, justement, un rempart contre l'islam?
Ah mais tout à fait. Ça n'est pas dit, personne ne l'avouera publiquement, si vous voulez, mais c'est en tout cas ce que beaucoup de musulmans ont compris. Et c'est pour cela qu'ils essayent de porter le combat sur le problème de la visibilité, n'est-ce pas? Toutes ces histoires qui ont l'air un petit peu folkloriques, de voile, de différents, de la burqa maintenant, enfin bon, ce sont des façons de faire comprendre à l'État que une religion ne peut pas exister sans une certaine visibilité, justement, sans une dimension publique. Le christianisme conçoit quelque chose comme la séparation de l'Église et de l'État, et il conçoit cette séparation depuis toujours, je dirais, depuis Constantin, depuis l'échec de l'OPA que Constantin voulait lancer au début du IVe siècle pour faire du christianisme l'idéologie destinée à rajeunir un petit peu l'Empire romain qu'il commençait à sentir décliner. Bon, ça n'a pas marché pour des raisons historiques qu'il faudrait expliquer, mais la tentation a été permanente, elle a été, Dieu soit loué, toujours conjurée, jamais entièrement, mais en gros conjurée sous différentes formes. Le problème dans l'islam s'est posé d'une manière toute différente.
Vous n'avez pas vraiment répondu à la question tout à l'heure, je la repose. Est-ce que finalement l'islam peut entrer en dialogue avec cette laïcité ou est-ce qu'il y aura toujours un gros hiatus, une grosse différence ?
Je suis le plus mal placé pour savoir si un tel hiatus va subsister. Ça n'est pas une question pour les chrétiens, pour les juifs ou pour les bouddhistes. C'est bien entendu une question à poser aux musulmans, à poser à la rigueur avec eux, bon, en dialogue, mais c'est quand même à eux de s'interroger sur leur propre vision du monde, leur propre vision des choses, et à savoir si le terme de laïcité ou la réalité que recouvre tant bien que mal le terme de laïcité peut avoir un sens pour eux.
Alors, j'en reviens plus à la religion catholique. Est-ce que la laïcité ne serait pas un petit peu le relativisme qui est déploré par Benoît XVI aujourd'hui ?
Je ne crois pas, non, je ne crois pas que ça soit la même chose. Une certaine interprétation de la laïcité, un certain laïcisme, enfin, l'emploi du « isme » montre que on veut faire du fait non seulement un droit, mais un modèle, c'est une idéologisation d'une situation historique passagère. Un certain laïcisme peut très bien se comprendre lui-même comme un relativisme. Mais cela n'a en soi pas grand-chose à faire.
Quelle est la place de l'Église catholique aujourd'hui dans l'espace public ? Est-ce qu'elle a une place ? Est-ce que la laïcité lui permet de trouver un mode d'expression qui convient à ce qu'elle est ? C'est parce que vous faites aussi partie de l'Académie catholique française qui vient de naître.
Oui, elle voilà. Est encore tout à fait dans l'œuf d'ailleurs. On ne sait pas encore ce qui en sortira. Oui, ce que je voulais dire, ça serait presque la réponse que les parents juifs font traditionnellement à leurs enfants qui leur demandent où est Dieu. Et ils répondent, Dieu est partout où on veut bien lui laisser la place. Alors bon, mutatis mutandis, loin de moi de confondre Dieu avec l'Église catholique qui n'en est que l'humble servante. Mais il en est un petit peu de même. L'Église est dans la société civile là où on veut bien lui laisser la place. Et là, corrélativement, où les catholiques acceptent une certaine visibilité, acceptent de sortir de ce qu'un juif, Joseph Weiler, un sud-africain qui enseigne le droit à New York et que j'ai l'honneur de connaître, appelle la manière dont les catholiques, dont les chrétiens d'Europe se sont mis dans un auto-ghetto, hein, se sont enfermés eux-mêmes dans une sorte de silence par peut-être respect excessif de l'opinion d'autrui, par désir de ne surtout pas choquer nos frères incroyants, etc., etc. En fait, j'ai l'impression, enfin, j'en connais suffisamment pour pouvoir le dire, que nos frères incroyants en question attendent de l'Église qu'au moins elle parle, qu'elle dise ce qu'elle a à dire. Bon, ensuite, ils verront ce qu'ils en feront. Mais si les chrétiens commencent par dire « surtout ne disons rien parce que cela pourrait choquer, parce que je ne sais quoi », il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'on les entende. Pour entendre quelqu'un qui se tait, il faut vraiment avoir l'oreille très fine.